Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Pierre Faucillon. Nouvelle émission, nouvelle équipe et nouveau générique composé par le fantastique Flavien Berger. Un grand merci à lui ainsi qu'à Antoine Blin pour la coordination. Après 8 années à fuir la mélancolie dans les œuvres d'art, on m'a proposé de trouver une nouvelle idée pour laquelle on m'a donné le feu vert juste avant la fin de saison dernière. J'ai eu peu de temps, je vous demanderai donc patience et indulgence pour les débuts de l'embellie qui, je rassure les nostalgiques, peut être vu comme un cousin éloigné de l'ancienne émission, mais aussi comme une sorte d'évolution Pokémon cohérente. Il s'agit toujours d'un entretien sur des questions universelles émaillées de recommandations culturelles, mais, et c'est là que réside la grande différence, dirigée vers une idée de participation au monde, d'action et d'engagement. Alors attention, j'emploie le mot engagement dans un sens existentiel. Plutôt que de se mettre en retrait du monde, comme y encourage le vague à l'âme, je vous propose d'y prendre part. Œuvrer plutôt qu'endurer, voici ce que pourrait être la devise de cette émission. Pour y réfléchir, je sonderai mes invités sur leur façon d'habiter le monde, en explorant autant le rapport qu'ils entretiennent avec la société qu'avec eux-mêmes. Mais bon, l'éternelle question restera toujours, comment exister le moins douloureusement possible? Ajoutons-y la suivante, y a-t-il des choses à faire pour enjoliver l'austère allure du réel? Et je crois que c'est par l'entremise de ce verbe « faire » que l'embellie peut justement survenir. Adieu au spleen donc, bienvenue à l'ouvrage et aux lueurs. Le premier invité de l'embellie est un philosophe, essayiste, enseignant et écrivain se méfiant de tout ce qui réduit ou limite, à commencer par les mots. Son dernier ouvrage, dans lequel il développe sa singulière et passionnante métaphysique, semble avoir été imprimé pour cette émission. Il s'agit de L'architecture du possible, paru au PUF, ouvrage dans lequel le penseur est interrogé par le journaliste Jean-Marie Durand.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Tristan Garcia.
Bonjour.
Alors, je commence par une question qui va à l'essentiel tout de suite, parce qu'on va d'abord sonder l'intérieur avant de s'intéresser au monde qui nous entoure. Êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Oui, je suis plutôt heureux d'être né, ce que je dois à mes parents. Au moins, en un sens, je crois, c'est que j'ai aucune nostalgie du néant. Ça dépend probablement des personnalités. Je connais des gens qui développent une sorte de regret du rien, du vide, d'impression que être, c'est toujours un peu moins que n'être rien, que n'être pas, que c'est plus parfait, au fond, peut-être, de ne pas avoir été. C'est pas mon cas, pour au moins deux raisons, je crois, c'est que j'ai un goût du devenir et un goût du détail. J'aime que les choses changent, et j'aime m'enfoncer dans le détail des choses. Et le néant ou le rien, ben, c'est d'un seul bloc, et puis ça reste toujours pareil. Donc, ça m'aurait embêté de ne pas être.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même, Tristan Garcia ?
Je ne suis pas certain de cohabiter avec moi. Enfin, je crois profondément qu'on n'entretient jamais de rapport avec soi-même. On entretient des rapports avec des images de soi, des petites images, des petites figures qu'on se construit de soi-même à travers ce que nous renvoient les autres. Donc, comme tout le monde, j'ai des rapports plus ou moins contrariés avec certaines images de moi. Mais avec moi-même, j'ai l'impression de n'entretenir aucun rapport et je trouve ça très bien parce que c'est ce qui permet d'avoir un rapport avec tout le reste.
La cohabitation est plutôt harmonieuse, alors d'après ce que je comprends, même si vous n'aimez pas le mot cohabitation, c'est-à-dire vous ne subissez pas votre propre compagnie.
J'espère ne pas la faire subir aux autres. Pour moi, j'ai pas l'impression de cohabiter avec moi-même, je me connais pas vraiment, donc c'est pas un problème pour moi. J'espère que je suis pas un problème pour les autres, surtout.
Il y a justement ça qui est assez frappant chez vous, Tristan Garcia, c'est que vous haïssez l'injonction du néolibéralisme « sois toi-même » car vous n'avez absolument aucune envie d'être vous-même.
Oui, c'est compliqué parce qu'on pourrait dire qu'il y a eu, à un moment, une sorte de carambolage entre un vieil idéal plutôt noble, qui est l'idéal socratique, enfin voilà, l'injonction delphique « connais-toi toi-même », et qui traverse toute l'histoire de au moins de la pensée grecque et d'une part de la pensée chrétienne, puis qui à un moment est venu se caramboler avec, voilà, disons une pensée libérale ou néolibérale, centrée sur l'individu, et où le but est devenu de se connaître, mais en un sens plus prosaïque, de connaître ses besoins, de connaître ses goûts, et sans doute, me semble-t-il, pour que chacun puisse par avance faire un peu toujours une sorte de CV de lui-même, tout préparé.
Être son propre attaché de presse, c'est ce que vous écrivez, Tristan Garcia, en permanence.
Oui, beaucoup, je sais pas, beaucoup de toute une part de la vie en ligne aujourd'hui, par exemple, favorise ce type de présentation de soi. Il faut soigner son profil, et soigner son profil, ben voilà, il n'y a qu'un pas entre un profil sur une application de rencontre et puis un CV à Pôle emploi. Enfin, c'est déjà, même intimement, une manière de se vendre. J'aime pas cette manière-là.
Mais il y a quelque chose de troublant quand on regarde votre œuvre, Tristan Garcia, c'est qu'elle est multiple, vous êtes multiple, vous écrivez autant de la science-fiction que du roman sociologique, ontologique, politique, des choses sur l'éthique animale, de la littérature sportive, des choses sur les séries télévisées. En fait, vous dites, vous avez écrit que vous aviez l'espoir de vous multiplier et de vous perdre, que votre idéal de forme de vie, ça c'est dans l'architecture du possible, c'est une sorte de subjectivité amphibie. Cette envie de se dissoudre presque, elle me fait penser à l'envie de disparaître et forcément à une forme de désamour de soi. J'emploie souvent sans doute un mauvais terme. Mais on dirait que, en fait, vous voulez vous éparpiller, vous dissoudre dans la totalité de l'univers.
Alors, s'éparpiller, se dissoudre, je trouve que c'est pas tout à fait la même chose. J'ai pas envie de me dissoudre. C'est pas une sorte de rêve de bouddhisme mal compris, hein, de faire un avec le vide. C'est vraiment se multiplier. Avoir la chance de pouvoir être plusieurs. Et j'y crois en un sens politique aussi. Je suis très attaché à l'idéal d'émancipation. Et s'émanciper, je pense que ça veut pas dire être libre. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire pouvoir être quelqu'un, être reconnu. C'est quelque chose qu'on voit très souvent aujourd'hui dans ce qu'on appelle les politiques de l'identité ou de la reconnaissance, c'est-à-dire des personnes qui, parce qu'elles appartiennent à des minorités ou à des groupes de la société dominée, disent « je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas reconnu, je demande donc à être reconnu, je demande à être quelqu'un ». Mais ça, c'est pas le but ultime de l'émancipation. S'émanciper, c'est pouvoir être quelqu'un pour pouvoir cesser de l'être, pour pouvoir devenir n'importe qui, pour avoir la chance de ne pas être enfermé dans
peut-on
le fait d'être quelqu'un.
Le peut-on, Tristan Garcia ?
Je pense qu'on le peut. Je pense qu'on ne le doit pas. C'est pas quelque chose qu'on doit. On ne le doit à personne. Mais je crois que c'est l'horizon d'une vie individuelle. C'est à la fois socialement de pouvoir être quelqu'un, donc d'être reconnu, mais de ne jamais être quelqu'un que pour lutter contre ce qu'on, enfin voilà, la personne à laquelle on risque sans cesse d'être réduit. Et on est sans cesse réduit. On est réduit à des caractéristiques sociales. On est réduit à son genre. On peut être racisé, etc. Mais on est aussi réduit comme personne. On est réduit à son caractère. On est réduit à ses habitudes. On est réduit à son passé. Et il me semble que n'être vivant ne vaut que si on est capable de résister à ça.
C'est un sujet que vous développez d'ailleurs, notamment dans Nous, un essai passionnant que je recommande aux auditeurs.
Levez-vous ! Levez-vous ! Il est 11h, il y a Illich.
Mais qui est là ?
Eh ben moi ! Levez-vous !
Oh, va-t'en ! Qu'est-ce que tu veux ?
Ben, vous m'avez dit de vous réveiller.
Ben, c'est fait. Oh. Tu as fait ton devoir, tu peux partir.
Non, je m'en irai pas.
Ne me touche pas.
Il faut pas traîner, Ilya Ilyitch, il faut pas traîner.
Non, je t'en prie, écoute, laisse-moi.
Je t'en prie, voilà, je t'en prie. Maintenant, je t'en prie et tout à l'heure, je te traîne dans la boue.
Mon Dieu, mais quel homme, mais laisse-moi une minute.
Extrait de la pièce Oblomov, adaptée par Marcel Cuvelier du roman de Goncharov, publié en 1859. La pièce est diffusée sur France Culture en janvier 82. Dans le rôle d'Oblomov, Michel Dufaussoy, et dans le rôle du serviteur Zakhar, Alain Pralon. La première question que je vous ai posée, Tristan Garcia, c'est qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever, et vous l'avez prise au sens littéral.
Oui, et c'est pour ça que vous avez passé l'extrait d'Oblomov, qui est donc c'est un roman russe de Goncharov, dans lequel le héros petit à petit décide de ne plus se lever, de ne plus faire l'effort de sortir de son lit. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à cette question, je trouve intéressant de voir que, en fait, assez récemment, enfin, en tout cas, à partir du 19e siècle, dans la société bourgeoise en Europe, on voit se multiplier des récits de gens qui veulent plus se lever. Et Oblomov est peut-être l'emblème, c'est devenu presque un nom commun, hein. On est un Oblomov. Je pensais aussi à ce livre, à ce film, pardon, avec Philippe Noiret, Alexandre le Magnifique, Alexandre le Bienheureux, pardon, où là aussi le personnage décide au fond, en un sens, de résister aux injonctions sociales en restant dans son lit. et en inventant toutes sortes de mécanismes pour que la vie vienne à lui et qu'il n'aille pas à la vie.
Dont son chien qui devient un subordonné qui lui apporte des choses au lit. Et ça m'a fait penser à une chose qui n'a rien à voir, Tristan Garcia, mais dans le formidable podcast Bookmakers de Richard Guettet, dans lequel vous avez été interviewé, à un moment on apprend que petit, vous avez une amitié avec une chèvre. Je le dis puisque vous avez écrit aussi en tant que singe, en tant que narrateur singe dans Mémoire de la jungle, et votre mère avait peur que vous ne parliez que chèvre car vous vous conversiez beaucoup avec elle.
C'est vrai, elle m'avait raconté que comme on était dans un endroit un peu isolé, comme je communiquais avec cette chèvre, elle s'était demandé à un moment si peut-être comme un enfant sauvage, j'allais pas me mettre à parler chèvre. Et c'est quelque chose qui m'a suivi parce que c'est vrai que comme romancier, j'aime bien l'idée de parler chèvre, d'être capable d'adopter à travers le langage la forme de vie peut-être d'une autre espèce.
Vous avez beaucoup réfléchi sur ça, d'ailleurs, sur l'espace animal. Mais si on revient justement à ne pas se lever de son lit, Tristan Garcia, vous citez aussi le scribe Bartleby dans la nouvelle de Melville, publiée en 1853, qui lui, en fait, refuse de s'engager dans la vie obligée. C'est ça, à nouveau, c'est l'obligation qui vous dérange. Parce qu'en fait, ne pas se lever du lit, il y a l'état dépressif, fait qu'on ne se lève pas du lit. Il y a la colère, le refus de s'engager dans la vie. Mais est-ce qu'on pourrait ne pas se lever de lit par plaisir, si par exemple on avait les moyens matériels?
Je crois que c'est toute la question. C'est-à-dire que ces figures de personnages auxquelles je réfléchis souvent, qui, voilà, à partir du 19e siècle, font une sorte de grève intime, en fait, en refusant de se lever, de mettre le pied par terre le matin pour se préparer à manger, pour s'habiller, pour faire tout ce qu'il faut faire et essentiellement aller travailler aussi. Évidemment que c'est une forme de luxe. C'est quelque chose qui s'est développé plutôt dans la bourgeoisie, qui peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité est une partie de l'humanité qui pouvait se permettre de ne pas se lever le matin. Évidemment, en étant paysan, on doit se lever le matin parce qu'il faut faire les choses. Et d'une manière générale, encore aujourd'hui, voilà, quand il faut travailler, en fait, la question, est-ce que je peux me lever le matin, elle n'a pas grand sens. D'ailleurs, moi aussi, comme je suis aussi travailleur, je dois me lever parce que mon enfant m'appelle, parce que il faut préparer à manger, et puis parce qu'il faut sortir, il faut gagner de l'argent, et il faut aller travailler. Mais si certains individus suspendent toutes ces nécessités, à un moment, début du 19e, la question, est-ce qu'il faut se lever du lit, devient une question existentielle. Est-ce que, à un moment, je peux résister à la société en refusant les obligations, les nécessités, refuser d'aller gagner ma vie, de perdre ma vie à la gagner? Et en réfléchissant à ça, je me disais, j'ai l'impression d'avoir dans l'esprit une autre figure, une figure cette fois positive qui sort du lit, non pas parce qu'il est obligé socialement de le faire, mais parce qu'il le veut vraiment. C'est une figure dans un roman de Jack London qui s'appelle Radieuse Aurore. Et le personnage est surnommé Radieuse Aurore parce que tous les matins, que le sort soit contraire ou qu'il lui soit favorable, il se lève et au moment où le soleil se lève, il ouvre les rideaux et il s'exclame à chaque fois « Encore une belle journée, l'aurore est radieuse ». Et je crois que c'est une autre manière de trouver une raison de se lever qui ne serait pas de répondre aux injonctions, à l'injonction de devoir gagner sa vie, mais de se lever comme le soleil. Parce que le soleil se lève, je me lève aussi. Voilà.
Mais en vous lisant, Tristan Garcia, j'ai l'impression que ce qui vous meut, bon, évidemment, il y a la morale quand on a une famille, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens amoureux qui, malgré leur famille, ne se lèvent pas. Vous dites que lors de l'écriture de Faber, vous aviez en tête une phrase de Baudelaire, qui est « L'univers est égal à son vaste appétit ». Est-ce qu'on peut l'appliquer à un être, par exemple, à vous ?
Ah oui, j'aimais beaucoup cette phrase. Avant de savoir qu'elle était de Baudelaire, je me souviens que c'était le slogan d'un magazine pour la jeunesse, je crois, qui s'appelait Gulliver. J'étais abonné, mes parents m'avaient abonné à ce magazine, et je me souviens qu'il y a marqué Gulliver, l'univers est égal à son vaste appétit. Et je connaissais pas du tout Baudelaire, mais cette phrase sonnait pour moi comme une sorte de résumé de ma curiosité infinie pour le détail du monde, pour l'ampleur et le détail du monde. L'ampleur, la grandeur, la quantité des choses qui existent, que l'on peut essayer de connaître et de comprendre, et le détail de ces choses, c'est-à-dire à la fois essayer d'embrasser le monde dans ce qu'il a de plus vaste et d'infini, et en même temps essayer de rentrer dans le monde et d'aller vers l'infiniment petit, le grain, la texture de toute chose. Et j'avais l'impression que c'était lié en effet à une sorte d'appétit. Et alors maintenant, ce qui me retient dans cette phrase, c'est que évidemment, si on parle de la curiosité en termes d'appétit, c'est qu'on a envie de consommer le monde, alors que c'est pas pour le manger.
Pour le savourer.
Oui, il doit exister une manière, peut-être que c'est ça la curiosité. Il doit exister une manière de vouloir mettre le monde en soi, sans le consommer, sans le digérer,
le goûter et le transmettre peut-être.
Le transmettre aussi probablement. Il faudrait trouver le bon mot. J'aime bien le mot comprendre, qui est bien.
Oui, comprendre.
Comprendre sans consommer.
Son sein, oui, bien sûr. Je vous propose quand même de sortir du lit, Tristan Garcia, justement pour rejoindre cet univers qui vous passionne tant. On a évoqué Bartleby, Oblomov, et dans votre façon d'habiter le monde, il sera question de refus, d'obligation et de nécessité, de possibilité, de domination, d'émancipation, d'Ivan Chichkin, de bande dessinée, de Yann Ritsema, de Tsuyark, de guerre et de jazz, si on a le temps de tout aborder.
L'embellie sur France Inter.
If you get blown off course, filling in the parts of your life that have disappeared. Medicating, quick step reflection.
Sur France Inter, vous venez d'entendre Polaris de Damon Albarn. On continue de découvrir la façon d'habiter le monde de Tristan Garcia. Aimez-vous le monde dans lequel vous vivez, malgré le fait, évidemment, enfin, il vous intéresse Tristan Garcia, mais malgré le fait que vous remarquiez, mais comment ne pas remarquer, que c'est un monde marqué par la domination et la conscience de la domination. Et à cette époque, parce que je vais vous demander aussi si vous aimez cette époque, évidemment, une époque où on est un peu asphyxié par la raréfaction de possibilités et cette injonction qu'on a à s'occuper de tout en urgence, puisque c'est maintenant ou jamais.
J'imagine qu'être satisfait par le monde, d'une manière générale, et à toutes les époques, est une faute. C'est une faute morale. Être satisfait par le monde, c'est en fait uniquement se satisfaire de la place qu'on a dans le monde. Donc, on dit rien sur le monde, on dit simplement quelque chose sur soi. Quelqu'un qui dit « je suis satisfait par la réalité » dit simplement que la réalité, notamment sociale, a été généreuse avec lui. Et donc, on indique simplement voilà, qu'on vit à l'abri.
Ça ne peut pas être vu comme une pensée stoïcienne, par exemple, de dire ben « voilà, les choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir, je les accepte ».
Oui, mais je crois qu'on peut faire ça qu'à un seul prix, c'est de confondre... monde et réalité, c'est-à-dire en fait de faire du monde une petite partie de tout ce qui est et de tout ce qui est possible. Si je dis je suis satisfait par ce qui est, à mon sens, c'est une faute, parce que me satisfaire de ce qui est, c'est ne pas aller explorer ce qui pourrait être. Si on entend par monde simplement tout ce qui pourrait être, toutes les possibilités, oui, alors enfin, on a à être ni satisfait, ni heureux, ni malheureux, ni à rire, ni à pleurer de tout ce qui est possible. C'est le possible, c'est tout. Mais voilà...
C'est
se satisfaire de ce qui est, c'est s'interdire des possibilités. Et ça, c'est une faute, parce que c'est réduire le monde. Et c'est le réduire à ce qu'il est effectivement. Et le monde, il est marqué par l'histoire, il est marqué par le mal, il est marqué par la domination. Et donc, s'en satisfaire d'une manière ou d'une autre, c'est reconduire ces formes de domination, bien sûr.
Il y a une jolie citation de Kafka que vous reprenez, Tristan Garcia. C'est à peu près celle-ci. « Dans ton combat contre le monde, prends le parti du monde. » Et c'est assez inconfortable comme citation. Et c'est le contraire que vous aimez en littérature, justement ça. Puisque vous mettez en fait en œuvre des choses dans vos essais que vous mettez en échec dans vos romans.
Oui, c'est très beau. Dans la phrase de Kafka, il y a quelque chose de très beau et typique de la position de Kafka, c'est que Kafka n'est pas du tout satisfait du monde, évidemment, mais il sait que engagé dans une sorte de lutte avec le monde, il ne veut pas se satisfaire de lui, il veut pas se donner raison. Et il veut, en fait, il faut tenir les deux termes, parce que ce qui est beau dans la phrase de Kafka, c'est qu'il y a un combat contre le monde. Donc il s'agit pas de cesser de combattre le monde, il s'agit de le combattre tout en prenant son parti. Et de tenir les deux, c'est-à-dire de pas se satisfaire, de pas être certain de soi et de pas être certain de ce que l'on défend non plus, tout en combattant.
À propos de combat, Tristan Garcia, vous avez été élevé par 4 parents professeurs et l'un de vos pères venait du trotskisme auquel il était resté fidèle et aussi de la LCR et du NPA. De lui, vous retenez que ce que je crois être le mieux, je fais ce que je crois être le mieux, mais je ne sais pas si c'est le bien. Et ça rejoint ce que vous m'avez répondu à la question qu'aimeriez-vous changer dans votre environnement ou dans la société, Tristan Garcia, puisque vous pensez que parfois, la bonne volonté ne suffit pas et que parfois, en œuvrant à ce qu'on pense être le bien, on œuvre plutôt à son opposé.
Toute la question, en effet, c'est d'arriver à se battre, d'arriver à œuvrer pour quelque chose de juste, ou disons, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'égalité, donc quelque chose d'égal, en arrivant à, psychologiquement, ne pas se convaincre que on fait quelque chose d'absolument juste, ou pire, d'absolument nécessaire. C'est-à-dire d'arriver à s'engager dans un combat, dans une lutte pour l'égalité ou pour l'émancipation, en sachant que, justement, ce qu'on fait pourrait ne pas être, que c'est pas une nécessité historique. Je déteste en tout cas toutes les formes politiques qui essayent de se donner raison en disant c'est le sens de l'histoire, on ne peut pas faire autrement. Et tous les camps ont une tendance à essayer de mettre l'histoire de leur côté. Je sais pas, le libéralisme avait la phrase de Thatcher, par exemple, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative, c'est une manière d'enlever le possible. Mais de l'autre côté, longtemps, par exemple, disons la gauche émancipatrice ou la tradition marxiste, par exemple, mettait de son côté aussi l'histoire en disant voilà, c'est le sens de l'histoire, l'histoire va aller vers la dictature du prolétariat, l'abolition d'une société de classe. Et je trouve que c'est la même erreur, c'est-à-dire c'est essayer de se rassurer en pensant que on ne fait pas ce qu'on fait parce qu'on le choisit, et on ne le fait pas parce que c'est possible, on le fait parce que ça doit être, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Et je trouve que le plus dur dans un combat politique, c'est d'arriver à s'engager fermement, de ne pas être lâche, mais de ne jamais essayer de se donner cette raison, en tout cas, que ce qu'on fait est nécessaire. C'est pas nécessaire, c'est possible. Et ça suffit à vouloir faire quelque chose. Qu'une émancipation soit possible, par exemple, doit suffire à s'engager. Mais elle n'est jamais nécessaire. Et donc, on ne sait jamais si elle est aussi nécessairement bonne. Et peut-être qu'on se trompe.
Mais Tristan Garcia, tout cela est un peu paralysant. C'est-à-dire que quand on considère tous les possibles, on peut aussi, justement, ne jamais œuvrer, ne jamais agir, ne jamais s'engager. Vous, qui êtes un être de pensée et qui êtes engagé d'une certaine manière, je ne prends pas de risque en disant cette phrase, vous écrivez que devant des amis politisés, des militants, justement, vous avez un peu ce scrupule de désengagement, celui du métaphysicien en retrait du monde.
Oui, j'ai toujours ressenti en effet ce petit remords, ce petit pincement au cœur dans les discussions d'amis depuis l'adolescence avec des camarades avec qui j'ai partagé des causes. Alors ça peut être dans plein de champs. Je me suis intéressé, disons, à l'antispécisme, à l'éthique animale, à la lutte pour le droit des animaux, aux champs et aux camps décoloniales, où j'ai eu voilà des camarades, des amis féministes, néo-féministes, féministes radicales. J'ai grandi dans une atmosphère qui était plutôt une atmosphère marxiste, avec des syndicalistes, etc. Et dans tous ces champs, à chaque fois, en effet, j'ai toujours ressenti voilà ce petit pincement au cœur qui était l'impression de m'engager, mais comme j'essayais toujours par des détours, peut-être un peu compliqués dans la discussion, d'essayer de montrer que j'étais d'accord pour défendre. Je sais pas, pour manifester, pour défendre cette cause, pour faire une action, mais à condition de ne pas penser qu'elle était absolument juste. Et ça produit un conflit, en fait, avec des gens qui, pour s'engager, doivent penser, voilà, que ce qu'ils font est absolument juste et absolument nécessaire, qu'il n'y a pas d'autre possibilité, qu'il faut le faire. Maintenant, il faut agir. On ne peut pas faire autrement. Trêve de discussion. Et donc, il y a toujours le risque de passer pour celui qui a un peu de retenue, donc qui peut-être est un peu relativiste, qu'on soupçonne de peut-être, en un sens, vouloir discuter avec l'ennemi, voilà, est-ce qu'on est vraiment avec les autres dans un combat ou est-ce qu'on a juste un pied et un autre pied dehors aussi? Et donc, on prend toujours le risque de passer aussi pour un peu lâche. C'est une forme de lâcheté de l'activité intellectuelle qui est que, voilà, en soi-même, en moi-même, j'ai toujours eu l'impression dans ces moments de résister, c'est-à-dire de vouloir faire quelque chose, d'agir, mais en même temps d'essayer de toujours conserver d'autres possibilités, d'autres perspectives, d'autres points de vue, de discuter avec tout le monde, de discuter avec des ennemis. Enfin, je sais pas, étant antifa, je suis capable de discuter avec un fasciste, par exemple. Je peux le faire. Et j'ai pas l'impression de le légitimer pour autant. Mais, voilà, je garde ce remords, je le garderai probablement jusqu'à la mort, de pas savoir si c'est une forme de courage de ma part, une forme de lâcheté. Je ne le sais pas.
En revanche, il y a un engagement dans vos écrits, Tristan Garcia, et cet engagement, je pense qu'il pourrait être résumé par le mot « empathie ». Alors attention, le mot vraiment étymologique, hein, pas dans ce qu'il y a de mièvre et aujourd'hui, parce qu'il est assez mal employé souvent. Vous avez écrit le premier tome d'une histoire de la souffrance magistrale en 3 volumes. Le premier tome s'appelle « Âme ». Et dedans, vous vouliez tout simplement embrasser toute la souffrance de l'humanité.
Et au-delà de l'humanité même, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, ce sont les formes de vie. Donc j'aimerais faire rentrer dans le champ romanesque des subjectivités animales. Alors, ne pas le traiter sur le même plan, parce que souvent il y a confusion, on a l'impression qu'on veut mettre à plat et qu'on veut traiter les hommes comme des animaux et comme des plantes. Ce qui m'intéresse justement dans l'empathie, c'est la capacité à embrasser une forme de vie autre, mais en tant qu'elle est autre, justement.
Donc, l'imaginaire, évidemment.
Voilà, et elle est différente. C'est-à-dire, si j'essaye de m'intéresser à la forme de vie, à la manière de se mouvoir, à la manière de percevoir d'une autre espèce vivante, très intéressé par des grands singes, par exemple, des chimpanzés ou des bonobos, je sais absolument, j'ai toujours su que les chimpanzés ne sont pas faits comme des êtres humains. On n'est pas les mêmes. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à maintenir une forme d'égalité dans la différence. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse toujours, c'est de penser les choses, les êtres, les vies également, mais distinctement. Si par empathie, on entend cette capacité à considérer également, mais différemment, des formes d'existence, des formes de vie, alors oui, l'empathie, ça me va. Même si c'est un mot un petit peu usé, oui.
Oui, hélas. On parle d'imaginaire, l'imaginaire qui est nécessaire justement à cette empathie, autant comme scrutateur du monde par les essais et la pensée, que comme écrivain de fiction, puisque quand vous imaginez d'autres vies, que vous vous mettez à la place de gens parfois très éloignés de vous, je dis gens, mais ça peut être des animaux, Tristan Garcia, tout est donc... Tout se fait par le truchement de l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est le lieu idéal auquel vous aimeriez donner forme. Et alors, j'ai pas exactement compris en quoi ça consistait. Vous y faites allusion dans l'architecture du possible. Mais vous aimeriez fonder un refuge, mais imaginaire, un refuge de pensée où tous les gens qui voudraient adhérer seraient les bienvenus.
Alors, l'idée de refuge, c'est une idée que j'aime bien parce que c'est vraiment l'idée de refuge au sens strict. Vous voyez, le refuge de montagne. Ce que j'aime bien, au fond, dans la pensée, c'est l'idée de consacrer sa vie. C'est ce qui m'intéresse, donc j'essaye de faire de la théorie en philosophie. C'est d'essayer de construire un lieu de pensée, un endroit, donc de parcourir comme des montagnes, hein, de parcourir des possibilités, de parcourir des problèmes théoriques, ça peut être des problèmes politiques, ça peut être des problèmes plus métaphysiques, de parcourir ces problèmes et de sortir des chemins dans lesquels l'époque nous engage. C'est-à-dire, ce que j'aime bien, c'est partir de loin. C'est-à-dire d'aller chercher des problèmes qui, en apparence, n'intéressent personne. Et l'histoire de ma vie, c'est le fait de m'intéresser à des problèmes philosophiques qui n'intéressent personne. Ou dans les discussions avec des amis, il faut se justifier en disant « Mais pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ça? Quel sens ça ?» Et l'idée, c'est que peut-être, un jour, ça va intéresser les gens. Un jour, le sentier va se mettre à passer par cet endroit-là de la montagne. Et que, en ce cas, j'aurais passé une partie de ma vie à essayer de concevoir un refuge qui fait que ceux qui viendront après pourront se dire « Ah voilà, il a réfléchi à ça, il a réfléchi à cette question, à ce problème qui n'avait pas d'intérêt il y a 10 ans ou il y a 20 ans, mais il va nous faire gagner du temps parce que il a réfléchi, il a essayé d'aménager un lieu et d'essayer de penser justement cette question de la manière la plus juste possible. » Et donc ce qui m'intéresse, contrairement à beaucoup de penseurs, c'est pas du tout de me rapprocher de l'époque, vous voyez, d'essayer de penser ce qu'il y a d'urgent, d'actuel, de contemporain, c'est au contraire de partir de ce qu'il y a d'urgent, d'actuel, de contemporain, d'aller vadrouiller dans la montagne des possibles, et de prendre le risque, parce que c'est un risque de se perdre, de s'y perdre complètement, peut-être que personne n'y viendra, mais si c'est le cas, si un jour d'autres empruntent ce sentier-là et vont explorer ces questions-là, j'espère avoir construit à l'avance un lieu accueillant pour que ceux qui viendront après gagnent du temps, ne se posent pas les mauvaises questions, ne fassent pas les mêmes erreurs et puissent aller plus loin.
Donc l'adresse de ce lieu, elle est dans les livres, Tristan Garcia ?
Oui, pour moi, chacun de ces livres est un type de refuge, de cette manière-là. C'est un refuge construit quelque part dans la montagne. Alors, certains de ces livres, bah, il y a des lecteurs qui ont emprunté des sentiers et qui y sont allés. Ça leur a plu ou non. D'autres, personne n'y est allé. Mais c'est pas grave, c'est ce qui me plaît.
L'embellie. Eva Bester.
Les séquoias dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie du philosophe et écrivain Tristan Garcia. Parmi les milliers d'œuvres qui vous ont formé, Tristan Garcia, vous avez choisi de parler de trois images qui ont façonné votre rapport au monde. La première, c'est lorsque vous êtes enfant et que vous regardez les peintures de votre mère, de la peinture abstraite.
Oui, c'est presque la première image pour moi, parce que j'ai grandi auprès de ma mère et comme ma mère dessinait et peignait. Voilà, j'ai l'image, les premières images que c'est d'elle très souvent à quatre pattes d'ailleurs, moi lui montant sur le dos ou discutant à côté d'elle, et elle en train de dessiner ou de peindre avec des techniques qui lui sont propres en plus. J'ai encore en tête le bruit du coton, elle aimait beaucoup utiliser des cotons qu'elle frottait avec du pigment, et donc voilà, j'entends très clairement le bruit du coton contre le papier. Et ces images qui d'abord étaient des images abstraites et puis qui, voilà, au fil de ses recherches de peintre sont devenues des images plus concrètes avec des objets. Et je me souviens de retrouver des fois un soir en allant voir ce qu'elle dessinait, une partie de ma chambre, parce qu'elle dessinait des objets, les livres que j'avais posés à côté du lit, et de voir mystérieusement des parties de ma vie, de mes livres, de mes objets intimes passer dans ce monde d'images.
La deuxième image, Tristan Garcia, ce sont des cases de bandes dessinées empruntées à la bibliothèque municipale.
Oui, c'est un art qui a beaucoup compté pour moi. C'est vraiment l'art de l'enfance. Pour moi, c'est lié à mon développement d'enfant. C'est un art que j'ai aimé passionnément, que j'aime toujours passionnément. Il m'est très difficile de m'endormir sans lire une bande dessinée.
C'est vrai ?
Oui, parce que c'est l'art qui m'est le plus familier.
Quelle est la dernière bande dessinée que vous ayez lue, Tristan Garcia ?
La toute dernière que j'ai lue, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était la dernière de Charles Burns, cet auteur américain.
Bien sûr.
Voilà, celui qui a fait Black Hole. Et je trouve ça très beau, mais j'étais un petit peu déçu parce que c'est toujours les mêmes obsessions. J'avais l'impression de lire un peu toujours la même BD. Mais en fait, je ne lis pas que des bonnes BD. J'aime lire. Ce que j'aime, c'est la bande dessinée plutôt que telle ou telle. Donc, je crois que je lis tout ce qui sort. Et une fois par mois, par exemple, je continue d'aller dans une librairie et dans des librairies spécialisées et j'essaye de lire tout ce qui sort. Je consacre au moins une moitié de la journée à lire toutes les sorties.
Nocturne en fa mineur du compositeur russe Mikhail Glinka, contemporain du peintre Ivan Chichkin que vous affectionnez, Tristan Garcia, et qui correspond à la troisième image.
Oui, très simplement, cette troisième image, c'est de façon générale la peinture de paysages que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi des peintres américains paysagistes de la fin du 19e. Mais Ivan Chichkin, c'est un peintre que j'aime parce que longtemps, il a paru un peu en retard sur l'histoire de la peinture, parce qu'il arrivait juste avant Malevitch, Kandinsky, les grandes avant-gardes et l'art abstrait. Et lui faisait partie de ce qu'on appelait les ambulants. Donc il est parti en Sibérie, et disons dans l'arrière-pays russe, pour peindre des grands paysages très beaux, des forêts souvent, des forêts profondes, moussues. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on le voit, on a l'impression au contraire qu'il est presque en avance ou qu'il représente une sorte d'avenir, c'est que ces paysages sont presque tout le temps dénués de présence humaine. Donc on a l'impression de voir un pays primitif ou un pays post-apocalyptique d'où la présence humaine se serait évaporée. Et j'aime beaucoup cette voilà, ce qui est peut-être les derniers feux de la grande peinture figurative juste avant que la peinture prenne le tournant de l'abstraction au début du XXe siècle.
Allons croiser tout de même quelques figures humaines, Tristan Garcia, puisque vous avez séjourné avec votre compagne dans un lieu communautaire dans le nord de la France qui s'appelle PAF, lieu fondé par Yann Ritsema, d'abord avec des chorégraphes, des artistes, et c'était un lieu autogéré. Vous dites que c'est un lieu qui vous a changé. En quoi cela vous a-t-il changé ?
Oui, je fais partie d'une génération qui a grandi, disons, au moment à l'apex du néolibéralisme dans les années 90, avec l'impression que la vie était atomisée, qu'on était des individus séparés les uns des autres, et que toutes les promesses de communauté, disons, des années 60-70, étaient complètement éventées, perdues, que tout ça finissait en fromage de chèvre et en voilà, avec aussi le sentiment que mes parents ont connu, hein, d'une sorte de d'effritement des idéaux gauchistes des années 70. Et quand dans les années 2000, avec la crise, je crois que la crise a compté pour ça, j'ai découvert qu'il y avait des formes de réorganisation du commun, de la vie en commun. Donc il y avait des gens, et Yann Ritsema en fait partie, je trouve que c'est celui qui l'a, parmi ceux qui l'ont le mieux réussi en France ou en Europe, ont essayé de recréer des lieux communs pour des artistes, pour des marginaux, des lieux communs aussi, ça peut être pour des professions mises à la marge, des pigistes, des journalistes, qui se retrouvent dans ces lieux, qui essayent de réapprendre à vivre ensemble. Mais c'est ce qui m'a marqué dans ce lieu, et qui est très lié à la personnalité de Yann Ritsema. Il y a un mélange de lieux autonomes et libertaires, d'idéal autonome et libertaire, et en même temps de grandes précision et presque de règles monastiques. Vous voyez les règles de Saint-Benoît, c'est-à-dire que on n'est plus du tout dans une sorte de lâcher prise et de vie collective où tout est permis, où on prend pas du tout soin de l'espace dans lequel on vit. Au contraire, on apprend collectivement, en commun, à prendre soin de l'espace où on vit tous ensemble.
C'est lui qui a dit de sortir sans les enfants. Vous pouvez sortir. Pas les enfants. Pourquoi ?
C'est un nazi, un bourreau. Il est sans pitié.
Exact. C'est moi qui ai dit. Les personnes sans enfants, sortez. Laissez les enfants.
Du Gesetz. Ich hab so gesagt, weil alles seinen Ursprung in Kindern hat.
Il dit que c'est parce que tout commence par les enfants.
Ihr dürft nicht existieren.
Vous n'avez pas le droit d'exister.
Nicht jedes Volk hat das Recht auf Zukunft.
et il affirme que les peuples n'ont pas tous le même droit à l'avenir.
Tristan Garcia, je vous ai demandé deux œuvres qui changent un être par rapport au monde qui l'entoure, qui l'arment pour affronter le monde. Et vous avez d'abord parlé de ce film dont on vient d'entendre un extrait, Requiem pour un massacre, sorti en 1985. Le titre original emprunté à l'Apocalypse de Saint-Jean est beaucoup plus beau, comme vous le soulignez, c'est Viens et regarde. Et je vous laisse nous dire brièvement de quoi il s'agit et pourquoi le choix de ce film dont on ne sort pas indemne, qui est magnifique.
Oui, je pense que quiconque a vu ce film et en est sorti transformé, c'est sans doute le film de guerre le plus fort, le plus puissant que je connaisse, et le plus terrible, le plus terrifiant. C'est une sorte de réponse, pour le dire très simplement, c'est une sorte de réponse soviétique à Apocalypse Now, donc fait 5 ou 6 ans après, avec la collaboration de l'Armée Rouge dans les années 80, donc qui bénéficie de moyens gigantesques. Il y a des scènes d'explosion dans la forêt qui sont réalisées avec l'Armée Rouge et qui correspondent aux souvenirs du réalisateur, Evgeny Klimov, qui, enfant, a traversé la forêt biélorusse et ukrainienne en louvoyant entre les partisans et les nazis, les Allemands. Et c'est une sorte de traversée des enfers, littéralement, où on suit ce jeune garçon qui essaye de trouver sa voie dans l'horreur absolue.
Qui est galvanisé au début de rejoindre les troupes, et on attend à peu près 35 minutes avant de voir la première scène de violence. Il est dans une forêt avec une belle jeune femme. D'un coup, il y a des tirs partout. Et il y a cette forêt sublime qui est ravagée.
Cette scène est magnifique. On voit en effet une forêt qui est filmée comme seuls, sans doute, les cinéastes soviétiques et russes savaient le faire, en lui donnant une forme d'ampleur, d'attention au frissonnement des arbres. Il y a un héron qui traverse la forêt
magnifique,
avec son œil rond qui regarde les hommes. Et juste après, le bombardement. Et la seule scène peut-être à la hauteur de ça, pour donner une idée à ce qui essaierait de se représenter ce film, c'est peut-être certaines scènes du film de Terrence Malick, la ligne rouge, où on voit là aussi le bombardement d'une colline et puis les hautes herbes qui semblent observer plus ou moins indifféremment les hommes qui s'entretuent.
On peut le louer, c'est comme ça que je l'ai vu sur le site Cinéthèque. Tristan Garcia, le second film dont vous parlez, contrebalance le premier en tout point. Vous dites que c'est à la fois Marivaux, Lubitsch, Spielberg et Tintin. C'est Pékin Opéra Blues de Tsui Hark, sorti en 1986, donc un an après Requiem pour un massacre.
Oui, il me semble qu'il fallait quand même compenser l'horreur absolue et l'enfer de Requiem pour un massacre par... voilà, le film peut-être le plus léger, le plus vif et un des films les plus enthousiasmants que je connaisse, qui est un des films des débuts de Tsui Hark, le grand réalisateur hongkongais, et un film où trois personnages féminins qui se griment beaucoup, qui se transforment, qui, comme dans une pièce de Marivaux, passent du masculin au féminin, du féminin au masculin, emportent le spectateur dans une sorte de course extrêmement galvanisante. C'est un film qui m'enthousiasme énormément.
Ah oui, il est formidable, mais on fait un peu des crises d'épilepsie parce que tout le monde saute partout dans tous les sens à chaque scène, c'est incroyable. Pour terminer l'émission, je demande deux choses aux invités. La première, c'est de nous faire découvrir quelque chose de beau. Et la seconde, c'est un petit engagement. Voici ce que vous voulez faire découvrir aux auditeurs. Qu'est-ce qu'on entend, Tristan Garcia ?
C'est un court extrait d'un disque oublié, ou en tout cas négligé. Alors à l'heure d'Internet, c'est dur de trouver ce qu'on appelait jadis des trésors cachés dans l'histoire de la musique. Voilà, c'est un disque du début des années 60 de Philippe Coran, qui est un instrumentiste de jazz qui a été proche de Sun Ra, pour ceux qui connaissent à un moment, et qui, au début des années 60, a expérimenté avec des instruments d'Extrême-Orient, qu'il a mêlé à du jazz, qu'on appelait un peu le jazz spirituel, de tous les héritiers de John Coltrane et de sa femme Alice Coltrane. Et ce disque s'appelle On the Beach. Je pense d'ailleurs qu'il y a quelque chose, peut-être que tous les disques qui s'appellent On the Beach sont sublimes. Il y a un disque de Neil Young qui s'appelle On the Beach, qui est un des plus beaux. Et voilà, je le recommande vivement parce que même les amateurs de jazz en général l'ont oublié ou ne le connaissent pas. Et c'est un disque étonnant et très beau pour les gens qui aiment des formes de musique qui parfois vont vers le silence. Je pense à certains disques de Miles Davis, In a Silent Way, ou les disques de Tok Tok, par exemple. Et c'est peut-être un des premiers grands précurseurs de ce type de musique qui essayait de sculpter le silence.
J'aurais beaucoup aimé vous poser plein de questions sur le rock, qui est une chose dont vous êtes fou, Tristan Garcia, mais on arrive à la fin de cette émission. Je suis obligée de vous poser la dernière question. Quel engagement acceptez-vous de prendre vis-à-vis de vous-même ou de l'extérieur à la sortie de cette émission? Et vous m'avez répondu quelque chose qui me met dans une position assez embarrassante. Pas d'engagement. Je ferai ce que je peux, comme partout. Mais c'est déjà une forme d'engagement de faire ce qu'on peut. On pourrait très bien ne rien faire.
Mais je tiens à un sens assez fort et assez lourd de faire ce qu'on peut, c'est-à-dire rester fidèle à des possibilités, toujours essayer d'agir en direction du possible et pas en direction du réel ou du nécessaire ou de ce qui se doit. Et donc, effectivement, pour cette raison, j'aime pas faire ce qu'on doit faire, j'aime pas faire ce qui se doit. Donc, je suis désolé de pas jouer le jeu.
Mais vous ferez, de ce point de vue-là. Vous ferez.
Je ferai, mais je ferai ce que je peux.
Bien sûr, mais ça, c'est quand même faire.
C'est vrai.
Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, Tristan Garcia.
Merci.
Je vous souhaite une bonne rentrée à la faculté de philosophie de l'université Jean Moulin III à Lyon, où vous êtes maître de conférence. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, l'entretien mené par Jean-Marie Durand, l'architecture du possible au PUF, et je renvoie évidemment vers toute votre bibliographie très détaillée sur internet que je n'ai pas le temps de citer, sinon on sera dans une heure. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous aurez l'énergie d'un trombone vindicatif jetant la vérité à la face de ses offenseurs. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.